Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h ici, nous essayons de vous faire du bien. Et pour vous faire du bien, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux vergetures. Pourquoi notre peau craque parfois? Pourquoi peut-on avoir apparaître ces petites stries violettes au départ? Nous vous dirons aussi comment les éviter et bien sûr les faire disparaître si elles vous gênent. Nous allons répondre à toutes ces questions avec notre invité, la dermatologue Laurence Netter. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de diabète et de l'impact de la perte de poids sur cette maladie. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler d'épilepsie. Savez-vous ce qu'est cette maladie neurologique? On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle répondra à un jeune homme de 20 ans qui ne s'intéresse pas du tout au sexe. Elle nous dira si c'est normal.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Marguerite, 31 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle parce qu'avec mon compagnon, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Je voulais savoir si c'est parce que je suis fumeuse.
Alors Jimmy, le tabac, on le sait, on le répète assez souvent d'ailleurs dans cette émission, c'est mauvais durant la grossesse, pour le fœtus et même pour la future maman. Mais est-ce que c'est toxique au niveau de la fertilité des femmes? Pour y répondre, on a posé la question à une spécialiste. C'est le professeur Nathalie Massin, médecin de la reproduction à l'hôpital intercommunal de Créteil. On écoute sa réponse.
Le tabac va forcément jouer sur la fertilité, ça diminue la qualité des ovules et les chances qu'un embryon s'implante. On voit très bien, donc avec nos techniques maintenant au laboratoire, on peut voir les embryons se développer et on voit que les embryons qui sont issus d'une femme fumeuse vont être un peu plus lents à se développer. Donc vraiment, on recommande l'arrêt complet du tabac pour la femme qui veut faire un bébé et 3 mois déjà avant le projet de conception, puisqu'on sait que l'ovule met 3 mois à se préparer, donc il n'aura pas été fumeur l'ovule juste pendant quelques jours, il aura été fumeur pendant ces 3 mois et on comprend que ça peut atteindre finalement le mécanisme cellulaire et agir ensuite sur la santé de l'enfant qui va naître. On sait très bien que la santé des enfants qui naissent de maman fumeuse ou de grand-mère fumeuse est impactée.
Voilà, comme ça au moins c'est clair et je rajoute que Nathalie Massin, qui a été notre invitée début février, nous avait expliqué que le cannabis aussi pouvait avoir un impact. Des chercheurs ont montré que cela pouvait ralentir, comme paralyser en quelque sorte l'agilité, l'activité des spermatozoïdes. Une bonne raison, s'il en fallait messieurs, d'arrêter bien sûr le cannabis, surtout si vous essayez d'avoir un enfant. Allez, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Gabriel, 37 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Alors je vous appelle parce que ma mère commence à avoir des problèmes de mémoire et parfois je la trouve même désorientée alors qu'elle a que 63 ans. J'ai entendu parler des consultations mémoire et je me demandais ce que c'était et qu'est-ce qu'on y faisait et est-ce que c'est une bonne idée selon vous pour elle. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, on parle à présent des consultations mémoire. Expliquez-nous ce qu'on y fait dans ces consultations. D'ailleurs, est-ce qu'on peut s'y présenter comme ça directement ou est-ce qu'il faut d'abord, vaut mieux d'abord passer par son généraliste par exemple?
Alors dans un premier temps, il faut respecter ce qu'on appelle le parcours de soins. Il est évident qu'il ne faut pas aller de vos propres chefs voir le gériatre ou voir ces consultations de mémoire car vous avez besoin d'une lettre du médecin traitant car dans un premier temps, il va évaluer la situation. Il peut évidemment vous examiner, mais souvent l'examen clinique est très pauvre. Et on peut faire des petits tests, déjà chez les généralistes. Il y a un test qui s'appelle le MMS, qui s'appelle le Mini Mental State Examination, qui permet d'évaluer les fonctions mentales et perceptives du patient sans pour autant de faire de diagnostic. On ne dira pas qu'il a la maladie d'Alzheimer avec ça, mais au moins,
on peut évaluer. Une première évaluation.
Exactement.
Vous faites en pratique,
on le fait. C'est une trentaine de questions,
générale,
ça prend
ouais.
Moins de 10 minutes. On évalue l'orientation du malade, c'est-à-dire la date, le jour, la saison, qui est le président de la République, où est-ce qu'il habite, les apprentissages. On demande de retenir 3 mots simples qu'on va lui demander de répéter au bout de quelques minutes,
plus
même
tard,
si ces mots
plus tard,
paraissent
dans la
anodins.
Consultation, d'accord.
Exactement, fleurs, ciseaux, cailloux, pommes, si vous voulez. Et puis on leur demande s'ils le reçoivent.
Fleurs, ciseaux, cailloux, vous avez dit, d'accord.
Oui, pourquoi pas. L'attention et le calcul, à partir de 100, retirez 7 et on voit jusqu'où le patient peut aller. On vous donne le mot « monde ».
Ça, c'est pas facile.
Épelez-le à l'envers, mais c'est des choses de base et souvent, les patients qui ont des troubles cognitifs sont dans le déni et refusent d'admettre qu'ils ont des problèmes. On évalue aussi le langage, un peu de calcul, et puis ce qu'on appelle les praxis, c'est-à-dire qu'on demande au patient de faire un petit schéma. On met 2 cubes qui se superposent et on voit s'il peut le reproduire. On a un petit score qui nous permet d'orienter le malade par la suite vers une consultation mémoire ou un gériatre si besoin.
Très bien. Alors ça, c'est ce que vous pouvez faire vous déjà chez le médecin généraliste. Mais donc après, l'étape d'après, éventuellement, si le généraliste trouve que c'est nécessaire, c'est la consultation spécialisée, la consultation mémoire. On y fait quoi dans ces consultations ?
Alors, consultation mémoire sur des patients qui ont des troubles de la mémoire ou plus largement des troubles cognitifs. On a du mal à se repérer dans le temps, dans l'espace, à prendre ses médicaments. Là, on a une consultation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on aura un neurologue, un neuropsychologue, un gériatre, une infirmière, une orthophoniste qui permet ensuite de faire un bilan. Ça se fait plus souvent à l'hôpital et un petit peu moins en ville quand même.
D'accord. On y fait des examens aussi particuliers, je ne sais pas, de l'imagerie par exemple ?
Oui, on commence examen clinique, des questions, des prises de sang pour être sûr qu'il n'y a pas, notamment par exemple, une carence en vitamine B12 qui peut donner des démences. On fait une IRM cérébrale à la recherche d'une cause de démence ou de signes précoces de maladie d'Alzheimer, même s'il est souvent difficile de poser un diagnostic de démence car on n'a aucun examen objectif qui permette de le faire. C'est un élément de concordance qui nous dit, bon bah voilà, ce patient a un haut risque d'avoir une maladie d'Alzheimer ou un autre type de démence.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de diabète et de l'impact de la perte de poids sur cette maladie. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, la dermatologue Laurence Netter, avec qui nous allons tout vous dire sur les vergetures. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Son Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Laurence Netter, pour parler de vergiture, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude qui montre qu'il serait possible de traiter un diabète de type 2 sans médicaments. Pourquoi c'est si important d'ailleurs de traiter le diabète ?
Alors le diabète, c'est un facteur de destruction irréversible de la santé. C'est la première cause d'amputation en France hors accident, avec 9000 cas par an. C'est la deuxième cause d'accidents cardiovasculaires. 25% des maladies qui détruisent le rein lui sont imputables. Première cause de cécité après 65 ans, plus de 1000 cas par an. C'est 4 millions de personnes qui sont diabétiques en France, dont 500 à 800 000 qui s'ignorent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas de traitement. Si rien n'est fait, un Français sur 10 sera touché d'ici 15 ans.
Bon, c'est bon, je pense que vous nous avez convaincu que c'était important de se faire traiter. Quelle est cette étude alors ?
Étude très intéressante, une étude anglaise. On a pris 900 patients âgés de 40 à 69 ans qui ont un diagnostic de type 2 qui vient d'être diagnostiqué.
Un diabète de type 2 qui vient d'être diagnostiqué. Vous avez dit un diagnostic de type 2, c'est pour ça que je précisais.
Pardon, autant pour moi. Donc ils ont un début de diabète de type 2 qu'on vient de diagnostiquer. On les répartit en deux groupes. Un groupe qu'on va suivre de façon intensive et à qui on va essayer de faire perdre du poids. Et un groupe qu'on va suivre de manière classique. On les suit pendant un an avec le contrôle de leur poids, l'activité physique, ce qu'ils mangent et leur consommation d'alcool. Et on voit ce qui se passe dans les 5 ans qui suivent et on voit est-ce que ça modifie ou pas un diabète.
Alors justement, elle montre quoi au final cette étude ? C'est quoi les résultats ?
Les personnes qui perdent 10% de leur poids dans l'année qui suit le diagnostic de diabète ont deux fois plus de chances d'entraîner une rémission complète du diabète.
C'est dingue ça.
C'est-à-dire que sans traitement, si vous perdez 10% de votre poids, plus de diabète.
C'est incroyable.
Si vous perdez entre 5 et 10%, c'est pas mal, mais la différence n'est pas statistiquement significative. Mmh. Donc il faut perdre au moins 10%. Et si finalement, au bout des 1 an, vous n'avez pas perdu ces 10% de poids, mais que vous mettez 5 ans à le faire, et ben,
même
5 ans après, c'est bénéfique. Vous avez deux fois plus de chances de ne plus avoir besoin de traitement, rien qu'avec une activité physique et sportive.
Parce que les diabétiques sont souvent des personnes qui ont un surpoids, hein, c'est ça aussi.
Exactement,
hein, donc ça vaut le
terrain,
coup quand il y a surtout un surpoids. Bah, écoutez, des résultats incroyables. Est-ce qu'on peut d'ailleurs prédire son risque de devenir diabétique ?
Alors on sait qu'il y a des terrains, il y a un terrain héréditaire. Si dans votre famille vous avez des diabétiques, vous êtes plus à risque. Mais voilà, mais il n'y a pas que ça. Et vous pouvez aller sur le site de la Fédération française des diabétiques qui évalue votre risque de devenir diabétique au cours des 10 prochaines années. On vous pose quelques questions simples comme votre âge, votre poids, votre taille, vos habitudes alimentaires. Et vous avez une probabilité d'être diabétique d'ici 10 ans. Ça ne veut pas dire que vous allez l'être.
Pas sûr,
mais que peut-être vous allez pouvoir modifier certains facteurs qui, par la suite, vont vous rendre diabétique.
Et donc pour diminuer ce risque, c'est
exactement.
Ça.
Donc c'est un site qui est très bien fait, qui est grand public. En 3 minutes, vous faites le test. Et puis, je l'ai fait pour vous, Mélanie, mais votre risque, je l'ai calculé, il manquait votre tour de taille, je l'ai un peu estimé, mais vous avez un très faible risque,
oh,
vous, Mélanie,
gentil.
D'être diabétique.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cette consultation en direct. Et donc, pour ce point sur le diabète, et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le docteur Laurence Netter. Elle est dermatologue à Paris, avec elle, on fait le point à présent sur les vergetures.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour, docteur Netter.
Bonjour Mélanie.
D'abord, docteur Netter, on va revenir à la base. Expliquez-nous ce que c'est physiologiquement, une vergeture. D'ailleurs, vergeture, ça vient, ce mot, là j'ai toujours un peu du mal à le dire. Vergeture, ça vient de quoi ?
Vergeture, ça vient de verge, mais pas la verge. La verge, le bâton. On employait le mot verge pour décrire un bâton au XVIe siècle. Et c'est des lésions qui ressemblent à des coups de bâton. Alors effectivement, les vergetures, ce sont des lésions linéaires que l'on retrouve un petit peu partout sur le corps avec une prédominance au niveau du ventre, au niveau des hanches, sous les seins, et qui sont linéaires, qui sont en général orientées dans le sens de tension de la peau et qui sont des cicatrices, en fait, du derme, qui sont dues la plupart du temps à un étirement de la peau avec certains facteurs favorisants derrière.
Jimmy ?
Et les vergetures, je crois qu'elles évoluent avec le temps. Elles ne sont pas toutes toujours de la même couleur.
Non, vous avez entièrement raison, Jimmy. Elles apparaissent, quand elles apparaissent, elles sont d'abord inflammatoires, rouges, violacées. Et puis avec le temps, elles vont devenir lisses, atrophiques, blancs, avec un aspect fripé dessus.
Donc rouge violet, puis ça tire vers le blanc. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde, les vergetures, par rapport, si on prend la population complète, combien de gens auront ce type de problème ?
Une personne sur deux est sujet à avoir quelques vergetures avec des gros facteurs favorisants et
on va
des
en parler
âges.
Juste après, bien voilà. Sûr, mais... c'est plutôt les femmes quand même que les hommes ou pas ?
Non, les hommes peuvent avoir des vergetures, c'est surtout les femmes, puisque la grossesse est un des gros facteurs de risque des vergetures. Mais les hommes, et surtout les hommes sportifs, et ceux encore plus qui font du bodybuilding,
on en parlera aussi un petit peu après, mais...
sont plus exposés que la plupart des personnes.
Juste rapidement, les zones touchées chez les femmes et chez les hommes, ce n'est pas forcément les mêmes.
Ce n'est pas forcément les mêmes zones, justement. Alors, les zones touchées chez la femme, c'est pendant l'adolescence, sous les seins, les hanches, c'est-à-dire les zones qui vont prendre du volume pendant l'adolescence. Et chez la femme enceinte, évidemment,
le
bas du ventre dans sa partie ronde.
Et les hommes, ça plutôt...
Les hommes, ce sont souvent les zones très musculaires, la racine des membres, l'intérieur des cuisses, le bas du dos, qu'on retrouve très rarement chez les femmes, et les épaules.
Merci beaucoup, docteur Netter. On n'en a évidemment pas terminé. Dans un instant, votre émission Santé revient sur Europe 1. Mais en attendant, on vous laisse avec un chanteur qu'on adore. Ici dans cette émission, c'est Christophe Maé et son titre Casting.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, la dermatologue Laurence Netter, avec qui aujourd'hui on vous dit tout sur les vergetures. Alors Laurence, il y a, je crois, deux grandes périodes, on l'a un petit peu dit juste avant, deux grandes périodes dans la vie d'une femme où on développe des vergetures. Ce sont lesquelles, ces périodes-là ?
Alors, on développe des vergetures avec deux choses à la clé. Une distension, voire même d'ailleurs un amaigrissement brutal des tissus. Et derrière, il y a des facteurs qui sont des facteurs essentiellement hormonaux qui vont fragiliser la peau. La conjonction de ces deux facteurs fait que la peau va craquer. C'est un symptôme du derme. Et donc, les grandes périodes de la vie où on risque de développer des vergetures, c'est l'adolescence, puisque enfant, on a des surrénales qui ne fonctionnent quasiment pas.
Les surrénales, c'est
quoi ? Les surrénales, ce sont des petites glandes qui fabriquent des hormones qui sont situées à côté du rein. Et dans la partie supérieure de ces surrénales, on a une zone qui fabrique ce qu'on appelle des glucocorticoïdes, qui sont des hormones qui vont fragiliser la peau. C'est le fameux cortisol, l'hormone de la grossesse.
Comme pour avoir des problèmes de peau. D'accord.
Exactement. Et donc, à la puberté, il y a la conjonction de la prise de forme niveau des seins,
les
au niveau des hanches.
Les seins poussent, on s'élargit un peu.
Et, voilà, ouais. Et le cortisol qui fragilise la peau. Et les deux facteurs combinés font que la peau peut craquer. Pareil pendant la grossesse.
Oui, vous l'avez dit pendant la grossesse, mais toutes les femmes n'auront pas des vergetures. Comment on peut expliquer ça ? Est-ce que certaines vont en développer plus que d'autres ?
Il y a indiscutablement des facteurs familiaux. La génétique joue dans l'apparition des vergetures. Il y a des facteurs ratios, il y a des origines qui font que la peau est plus fragile que d'autres.
C'est-à-dire que, quelles origines sont plus...
Bien, il y a par exemple une étude qui a été faite aux États-Unis qui a montré que les Noirs américains ont plus de risques que les populations blanches de faire des vergetures pendant la grossesse.
Ah oui, la peau noire, la peau afro-américaine en tout cas dans cette étude montre plus souvent de vergetures que la peau blanche.
Exactement. D'accord. Donc il y a des facteurs qui sont des facteurs génétiques.
Ils ont une peau plus fragile, quoi.
Il y a des facteurs environnementaux également.
Et qu'est-ce qui se passe vraiment dans la peau à ce moment-là ? Alors là, vous parliez des peaux des afro-américains, mais qu'est-ce qui dysfonctionne ? C'est un problème de collagène, de qu'est-ce qui s'étire ou qu'est-ce qui craque réellement ?
Alors, c'est une maladie du derme. La peau, c'est trois couches. L'épiderme superficiel, le derme, et en dessous, l'hypoderme. Et tout se passe dans le derme. Dans le derme, la principale cellule s'appelle le fibroblaste. Et le fibroblaste est une cellule qui synthétise les fibres collagène, élastine, et ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Eh bien, on sait aujourd'hui que les vergetures, c'est une maladie du fibroblaste. Le fibroblaste est une cellule qui est très sensible à l'étirement. Et les vergetures sont un dysfonctionnement de cette cellule qu'on appelle le fibroblaste.
D'accord. Jimmy ?
Je ne fais jamais de sport et encore moins de musculation.
On l'aura compris dans cette émission, vous le dites assez souvent. Hein.
Et non, parce que je n'aime pas ce diktat qu'il faut absolument faire de la musculation. Donc
par esprit de contradiction, il n'en fait pas.
Non, du sport, oui.
Du sport, bon, c'est encore autre chose. Mais la musculation, du coup, je n'en fais pas et apparemment, ça ne serait pas bon, justement, chez les hommes. Ils pourraient avoir des vergetures à cause de cela.
Alors, on va retrouver le même facteur de risque, qui est l'étirement d'une zone. Et les vergetures sont assez fréquentes chez les hommes qui usent et qui abusent de produits qui sont ce qu'on appelle anabolisants.
Ah, c'est pas juste le fait de faire de la gonflette que les muscles prennent en volume, c'est aussi les produits là qui jouent.
Ouais. On peut ne rien prendre et avoir des vergetures parce que la peau craque. Mmh. Mais il y a énormément de culturistes qui prennent et qui achètent sur Internet des produits dont on connaît assez mal l'origine et qui contiennent des hormones, des anabolisants. Et on retrouve du coup les deux facteurs de risque qui sont l'étirement, un facteur volumétrique, et la prise de ces hormones qui fragilisent la peau.
Oui, donc attention effectivement si vous êtes... adepte de la muscu, de la gonflette, c'est pas, en tout cas avec les produits en plus donc anabolisants, il y a vraiment un gros risque.
Faut pas acheter n'importe quoi.
Que la peau,
et encore
la peau
plus
crème.
Sur Internet.
Très bien. Et alors, est-ce qu'il peut y avoir un risque génétique au-delà donc des périodes, des risques hormonaux ou de faire de la muscu? Est-ce qu'il peut juste le fait d'avoir une maman ou une grand-mère qui est pleine de vergetures, ça veut dire que moi j'en aurais forcément?
Oui, il y a un facteur indiscutablement génétique. Il y a des familles où les femmes ont plus fréquemment des vergetures pendant la grossesse que d'autres familles. Les peaux claires, souvent, sont plus fragiles. Les peaux afro-américaines aussi sont plus sujettes aux vergetures. Il y a indiscutablement un petit facteur génétique.
D'accord. Jimmy ?
Il y a aussi des maladies, je crois, qui peuvent donner des vergetures. C'est-à-dire que souvent, on dit que c'est un problème esthétique, mais parfois, ça peut révéler peut-être certaines choses.
Alors, il y a deux choses. Vous avez dit, est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent donner des vergetures ? Oui, il y a des maladies génétiques qui sont des maladies de la constitution du collagène et de l'élastine. Les deux maladies phares, c'est le Marfan et les Lers dans l'os, mais ce sont des maladies absolument rarissimes. Mais ça prouve que c'est bien une maladie des fibres collagène et élastine. Voilà. Et puis, est-ce que la vergeture peut donner une maladie ? Non, ce sont des lésions totalement bénignes, mais qui peuvent réellement être une gêne esthétique importante, être un complexe important et avoir une répercussion psychologique importante, surtout chez les ados.
Et justement, docteur Néter, on va évidemment poursuivre cet entretien. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques toutes petites minutes, nous passons donc au traitement des vergetures. Parce que bon, là, on a compris pourquoi elles surviennent. Mais ce qu'on veut surtout savoir, c'est comment s'en débarrasser. Que doit-on penser des crèmes qu'on trouve parfois sans ordonnance en pharmacie ou même dans certains magasins cosmétiques? On vous parlera aussi des traitements par radiofréquence, par exemple, mais bien d'autres choses. Vous allez voir, ça se passe juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Laurence Néter, elle est dermatologue à Paris. Alors docteur Néter, on va passer au traitement à présent des vergetures. D'abord, si on pense avoir des vergetures, comment en être sûr ? Bon, vous avez un petit peu décrit quand même à quoi ça ressemblait, certains connaissent déjà. Il faut aller voir d'ailleurs un dermatologue vraiment ou est-ce que déjà on peut faire un point avec son généraliste ?
Oh, je pense que cliniquement, tout le monde sait à quoi ressemble une vergeture. Donc le généraliste, d'abord les patients savent, hein, ils viennent en nous disant, sans avoir consulté leur généraliste avant, en nous disant... j'ai des vergetures, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?
On peut venir vous voir d'ailleurs en parcours direct, on est obligé
en parcours
obligé,
direct, oui, pour des vergetures, direct, ouais. On est vraiment dans la médecine esthétique. Donc aucun examen complémentaire. Si vraiment on a un doute sur une anomalie, par exemple un hypercorticisme, on peut faire effectivement un dosage d'hormones surrénaliennes.
Hypercorticisme, donc c'est s'il y a trop de cortisol.
Exactement. Voilà, c'est une maladie qu'on appelle la maladie de Cushing. Bon, enfin bon, là on est quand même dans des raretés. La plupart du temps, c'est vraiment de la médecine esthétique pure.
D'accord. Je crois que vous dites qu'il n'y a aucun traitement finalement pour éliminer définitivement les vergetures. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Enfin, tous les traitements dont on va parler derrière, c'est finalement pour les atténuer, gêne esthétique, c'est ça ?
Aujourd'hui, il faut déjà mettre en place des règles hygiéno-diététiques, toujours la prévention. La prévention, c'est avoir une bonne hygiène alimentaire, ne pas faire le yo-yo avec son poids, parce que la prise de poids donne des vergetures, mais les anorexiques ont également des vergetures.
Perdre beaucoup de poids,
rapidement,
ça marche
rapidement.
Aussi.
Ah, oui, tout ce qui est étirement.
Hein, le fibroblaste, on a l'impression que ça n'étire pas trop la peau aussi.
Pareil, c'est la même chose. Bah, c'est une maladie du fibroblaste qui est très sensible à l'étirement dans un sens et dans l'autre.
D'accord.
Voilà, donc les anorexiques, on peut avoir également des vergetures. Donc, faire attention pendant la grossesse, ne pas fumer, ne pas s'exposer trop au soleil, ça fragilise la peau. Ça, ce sont ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, c'est la prise en charge du médecin généraliste. Une fois que la vergeture est là, ou alors une fois qu'on est en situation, par exemple pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui a prouvé l'efficacité d'une crème en prévention. Mais nous, médecins, il faut quand même donner des conseils aux patients.
Beaucoup de femmes passent de l'huile d'amande douce sur le ventre.
L'hydratation. Sans qu'aucune étude n'ait prouvé vraiment l'efficacité de l'hydratation, mais on peut imaginer que d'avoir une peau bien huilée,
bien
sur un élastique, eh bien l'élastique il va réagir.
Mieux s'étirer.
Voilà. Voilà. Donc acheter un
c'est
produit.
C'est un peu intuitif comme ça, mais il n'y a
intuitif.
Pas d'étude clinique
c'est
qui
intuitif,
le prouve. En tout cas.
Et puis ça rentre dans une prise en charge globale où on va faire attention à sa personne et prévenir les désagréments, les petits désagréments de la grossesse.
Jimmy, vous êtes passionné par les vergetures, je le sais.
Non, mais c'est vrai parce que souvent, on voit plein de pubs, notamment à la télé, les crèmes en pharmacie. Est-ce qu'elles valent quelque chose ? Et est-ce que plus on met d'argent dans ces crèmes, plus c'est efficace ou encore c'est un truc de pigeon.
On ne parle pas de médicaments, hein, de crème.
Oui, de crème.
On parle de crème vendue sans ordonnance à la pharmacie. Non, l'argent n'a rien à faire là-dedans. On peut avoir des très bonnes crèmes hydratantes pour un prix tout à fait modique.
Mais
je
les
pense
crèmes
d'ailleurs
anti-vergitures estampillées comme ça, il y en a même à la
vergiture.
Alors, à la caisse, il y en a une qui est transparente dans un petit flacon qui est un produit qui est très très bon marché et qui a l'avantage d'être très facile à mettre. On ne va pas citer le nom, mais voilà, il coûte 3 francs 6 sous et il favorise ce qu'on appelle, nous, l'observance parce qu'il s'étale bien, il rentre bien dans la peau. Mais enfin, une crème hydratante
pas d'avoir des vergetures, il ne les atténuera pas, quoi.
Oui, les crèmes qu'on dit spéciales collagène, riches en collagène,
non,
en vitamines, c'est... je ne sais pas quoi,
non,
qui permettent de
crème,
traiter.
Alors, il y a la silice, il y a des choses comme ça, mais il n'y a aucune étude sérieuse aujourd'hui qui a prouvé l'efficacité d'une crème particulière. Voilà. Par
on
contre,
peut en
une fois
quoi
que là...
ouais, comme effet de ce truc-là, rien, à part d'une bonne hydratation. Finalement.
Une bonne hydratation.
Ça ne fera pas disparaître les vergetures.
Non, ça ne fera
déjà
pas
là.
Disparaître les vergetures. Alors ensuite, dans les produits médicamenteux qui ont une réelle efficacité, il y a un produit dont il faut qu'on parle, c'est la vitamine A acide qu'on appelle trétinoïne. Alors là, il y a eu des études qui ont été faites
c'est
sur
contre
l'intérêt...
C'est contre l'acné, normalement.
Exactement, c'est contre l'acné et c'est une molécule qui booste le renouvellement cellulaire, qui irrite un peu la peau et qui stimule les fibroblastes et booste le renouvellement cellulaire. Il y a eu une étude qui a été faite sur un nombre de patients pas très important, mais qui a prouvé l'efficacité. Attention, c'est ça le gag, c'est que cette molécule est contre-indiquée fortement pendant la grossesse et l'allaitement. Donc c'est un produit sur prescription médicale, ce sont les dermatologues la plupart du temps qui prescrivent la vitamine A acide, mais à forte dose, 0,1%, il y a indiscutablement une récupération et une amélioration des vergetures une fois qu'elles sont installées.
D'accord. Et ça, on le prescrit quand aux femmes qui viennent d'accoucher,
quoi,
par exemple
Après la grossesse, voilà, exactement. Ou dans des vergetures qui sont un petit peu matures. Il faut dire que plus on les prend tôt, ces vergetures, plus on a une chance de les améliorer.
C'est bon à savoir, ça, il faut le prendre tout de suite pour essayer de les
améliorer. C'est quelque chose que moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu. Jamais on a dit que ces traitements de l'acné pourraient améliorer les vergetures.
Trétinoïne. Ce n'est pas n'importe quel traitement de l'acné.
Oui, enfin, ce traitement qui, dans la tête des gens, traite l'acné, pourrait améliorer les vergetures. Donc, elles vont être moins visibles. Il y en aura un peu.
Alors, on ne peut pas dire. Moi, je ne dis jamais aux patients, on va vous éliminer vos vergetures. Je dis toujours aux patients qu'avec ce que l'on a, c'est-à-dire cette crème plus pas mal de procédés dont on va parler après, on peut améliorer la surface. Donc, elles sont moins fripées. La largeur, la longueur, la profondeur.
Quand même,
et c'est vrai que après l'application de ces crèmes, plus 5-6 séances de stimulation, alors on utilise...
Ça, on en parlera après, on va y venir.
On arrive à une amélioration. Maintenant, dire aux patients, on va vous guérir vos vergetures, vous n'en aurez plus aujourd'hui, ça n'est pas réaliste, on peut vraiment améliorer. On travaille aujourd'hui sur le fibroblaste et il y a des études qui sont menées sur comment stimuler les fibroblastes pour les mettre un peu en mode cicatrisation, pour les forcer à faire du collagène et de l'élastine. On y arrivera puisqu'on est parti de rien et qu'aujourd'hui on a des améliorations et des études qui ont prouvé l'efficacité, mais on ne promet pas de miracle.
Alors vous avez dit donc évidemment qu'il y avait d'autres techniques. Là on va passer par exemple à la radiofréquence qui est utilisée pour contre les vergetures. Expliquez-nous ce que c'est la radiofréquence.
Alors si on parle de radiofréquence, la radiofréquence c'est de l'énergie qui a pour but de faire chauffer la peau plus ou moins profondément. En chauffant la peau, on va chauffer ces fameuses cellules qui s'appellent les fibroblastes et on va les forcer à se mettre en mode un petit peu cicatrisation de façon à ce qu'elles fabriquent des nouvelles fibres de collagène et d'élastine. Donc, c'est une technique qui a fait preuve d'efficacité. Simplement, il faut répéter, ce n'est pas une séance. Aujourd'hui, on a des radiofréquences avec ce qu'on appelle fractionné, avec pénétration dans la peau, soit par des petites aiguilles, soit en mode subablatif. Donc ça donne de la chaleur profondément dans la peau. Il faut multiplier les séances. Bon, moi, personnellement, je fais dans mon cabinet une séance par mois et j'en fais 4-5 séances.
Combien ça coûte ?
C'est cumulatif. Oh, on va dire 250 €, mais la ça séance, dépend aussi du nombre de vergetures. S'il y a juste une vergeture sous les seins, ce n'est pas le tarif. C'est un petit peu la même prise en charge que les cicatrices. Ce sont des cicatrices du derme. Et donc, tout ce qui stimule la peau peut entraîner une atténuation de ces cicatrices.
Jimmy ? Ça dure combien de temps, ces séances ? Est-ce que c'est douloureux en plus ? Parce que là,
vous dites, c'est pas très, très douloureux, ça chauffe un petit peu. Ça dure combien de temps ? C'est fonction de la quantité de vergetures.
Si j'en ai 3 de chaque
sein,
c'est rapide,
hein, 10 minutes.
10 minutes.
D'accord. Et puis à côté de ça, il y a également tous les lasers ablatifs, micro-ablatifs.
On y vient, les lasers contre les vergetures, comment ça marche ça ?
Alors,
il y a plusieurs lasers, vous dites déjà.
Oh, oui, il y a énormément de techniques aujourd'hui. C'est essentiellement ce qu'on appelle les lasers ablatifs et micro-ablatifs qui vont améliorer la surface de la peau. Donc, ça améliore le visuel de la vergeture. Et en même temps, pareil, ça chauffe et ça stimule le renouvellement cellulaire.
Donc, ça améliore l'effet un peu frippé que peuvent avoir les vergetures parfois.
Ça donne un remodelage de la peau. On va avoir une densité de la peau qui est plus dense, une amélioration de la surface de la peau. Et les meilleurs résultats aujourd'hui, c'est en combinant plusieurs techniques. On peut combiner radiofréquence et laser, ablatif, micro-ablatif. On peut combiner peeling et radiofréquence. Pareil, le peeling.
Ah bon, le peeling, juste un. Bah pour moi, le peeling, c'est un gros gommage, mais je me trompe peut-être.
Il y a peeling moyen, superficiel,
voilà.
Profond.
Mais là, quel peeling qu'on
combine ? On va prendre
des
peelings. Alors, moi, personnellement, je n'en fais pas parce que j'aime mieux la radiofréquence, mais il y a des médecins qui ont des résultats avec un peeling au TCA, ce qu'on appelle acide trichloracétique, qui est un peeling moyen. Il faut quand même aller irriter un petit peu la peau, toujours dans ce même esprit d'aller stimuler le fibroblaste.
Jimmy.
Et le laser, vous pouvez le faire sur toutes les parties du corps ou il y a certaines zones, je ne sais pas, par exemple les seins, où c'est un peu plus...
Jimmy, ça l'intéresse pour le bas du dos, je crois, il m'a dit.
Vous êtes culturiste.
J'avais
cru ne pas comprendre.
C'est une blague.
Mais du coup, on peut en faire partout du laser ?
Oui, on peut faire partout du laser, absolument. Absolument.
Et c'est douloureux aussi ou...
Alors, ça dépend aussi du type de laser. Là, on n'est pas dans les lasers avec une couleur, donc on n'est pas limité par la couleur de la peau.
Vous ne dites pas non
ça
à
chauffe.
La question, c'est douloureux, donc ça doit faire un petit peu...
Ça dépend du type de laser.
Ouais.
Oui, ça peut... les lasers, en général, c'est pas sans douleur. La radiofréquence, c'est beaucoup plus confortable, mais on a à notre disposition des crèmes anesthésiantes qui permettent de rendre tous ces actes complètement
supportables. Un peu ce qu'on met avant un vaccin, là, c'est ça, les petits patchs, là, ou ce genre de choses, c'est ça ?
Exactement.
Et c'est là, donc, du coup, la douleur est atténuée.
Et le coût est similaire à celui de la radiofréquence ou ça coûte un peu plus cher le laser ?
Ça dépend essentiellement de la surface de traitement. Mais ce sont des séances, on va dire, globalement, qui coûtent 300 euros.
Et pareil, une fois par mois, pendant 6 mois, ou il faut en faire plus ?
Alors, c'est toujours cumulatif. C'est-à-dire que plus on en fait, plus le résultat attendu est important.
Après, si on ne va pas en faire 200 non
plus,
on ne
va pas en faire 200,
mais
on va dire que si on veut
vraiment
avoir une amélioration de ces vergetures, en cumulant différentes techniques, il faut 4-5 séances.
Donc, de votre expérience, les patientes qui ont le plus de vergetures, qui s'en plaignent et qui n'aiment pas ça, qui veulent s'en débarrasser, avec vous, toutes vos techniques, là, elles, dans quoi, en 6 mois, elles arrivent un peu à atténuer
ça ? En 6 mois. Alors, toujours aussi, bien prévenir les patientes que les résultats, ils sont différés puisque c'est de la stimulation. Donc, on fait par exemple une séance de radiofréquence subablative et on a les résultats 2 mois après, puisqu'il faut que le fibroblast fabrique ces nouvelles fibres.
Ah oui, donc sortant de votre cabinet, on n'a aucun résultat.
On n'a aucun résultat.
Il ne faut pas s'étonner, c'est normal.
Alors, on a un petit résultat parce que la radiofréquence contracte les fibres de collagène. Ça chauffe et ça contracte. Donc, on a un effet de lissage.
Et d'œdème,
si vous voulez, qui peut éventuellement être passager sur l'aspect fripé. Mais le résultat définitif, il faut attendre un mois ou deux.
Je crois qu'il y a aussi les thérapies à base de lumière froide. C'est pareil que les lasers ou c'est différent ?
Alors, c'est complètement différent. Ce sont des lasers, mais à lumière froide, qui ne chauffent pas. Et ces lasers, enfin ces LED, ce qu'on appelle des LED, les diodes électroluminescentes, ont surtout un avantage dans la cicatrisation. Donc on les emploie surtout à la phase inflammatoire des cicatrices, comme on peut aussi employer, des vergetures, c'est le même raisonnement. Comme on peut aussi employer des lasers vasculaires pour enlever le rouge.
D'accord.
C'est-à-dire que quand les vergetures apparaissent, elles sont rouges. Et donc, à la phase inflammatoire des vergetures, on peut employer soit des lasers vasculaires qui enlèvent le côté rouge, soit effectivement, c'est LED qui améliore le côté inflammatoire.
D'accord, c'est clair.
À la phase mature des cicatrices et des vergetures, ces LED, elles n'ont plus beaucoup d'intérêt.
Jimmy ?
Et finalement, est-ce que c'est efficace aussi, cette technique ? Ou finalement, c'est, comme ça m'a l'air un peu plus léger, est-ce que c'est moins bien que le laser et la radiofréquence ?
Quand on intervient à cette phase inflammatoire, ça active le passage de la phase inflammatoire à la phase mature. Mais même sans l'intervention de ces LED, de toute façon, une vergeture finit par pâlir elle-même.
Naturellement, c'est
naturellement.
Ça. C'est la fin de sa vie, c'est ça.
C'est la fin de sa vie.
Donc ça sert à quelque chose, finalement ? Pourquoi on n'attendrait pas qu'elle devienne toute blanche et...
Parce qu'il y a un côté quand même stimulant. Stimulant, et ça booste un petit peu le renouvellement cellulaire. Mais on manque cruellement d'études sur l'efficacité. Les seules études que l'on a aujourd'hui qui sont correctement faites, il y a une étude INSERM sur la radiofréquence qui a été faite et qui prouve vraiment l'efficacité. Sur les LED, à ma connaissance, il n'y a pas d'études extraordinaires.
Merci beaucoup, docteur Netter, d'être venu sur notre plateau nous détailler toutes les techniques qu'on peut proposer aujourd'hui aux patients qui ne supportent plus leur vergeture. On a une meilleure idée maintenant de ce qui ne fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, justement. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à l'épilepsie. Savez-vous ce qu'est précisément cette maladie neurologique qui peut être très handicapante dans certains cas ? On vous détaille tout ça dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de l'épilepsie. Que savez-vous précisément de cette maladie neurologique ? Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui en sont atteintes ? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire hyper attention quand une personne faisait une crise d'épilepsie, elle se raidisse.
Tu tombes et je pense que t'es pris de tremblements de tout le corps et tu n'es plus conscient vraiment de ce qui se passe autour de toi.
Quand les personnes elles ont des crises d'épilepsie, elles tombent par terre et elles tremblent.
Je pense qu'on est avec ce problème-là, en fait.
On parle d'épilepsie quand on fait un jeu vidéo.
C'est assez tôt. Chez des enfants, déjà, on va pouvoir le savoir. Je crois qu'il faut empêcher les gens de s'avaler la langue et tout ça, mais il faut juste attendre que ça passe.
Oui, il y a des traitements. Justement, c'est des traitements pour détendre un peu les muscles, les choses comme ça, et pour les neurones, les gaines autour des neurones, les renforcer et du coup influencer. Mais je ne saurais pas dire si ça marche vraiment ou pas.
Bon, Jimmy, vaste sujet, hein, donc l'épilepsie, on va plonger un petit peu avec vous dans notre cerveau. Qu'est-ce qui se passe dedans, à l'intérieur de notre cerveau, donc, quand on a de l'épilepsie? Je sais que c'est très complexe, hein, comme phénomène.
C'est compliqué, mais malheureusement, c'est très fréquent. C'est 0,5 à 1% de la population en France. Ça touche plutôt les enfants et les gens qui ont plus de 60 ans. Les symptômes apparaissent souvent avant 10 ans, dans la moitié des cas. L'épilepsie, c'est l'ensemble des signes cliniques qui sont dits paroxystiques, c'est-à-dire que ça débute brutalement et ça s'arrête brutalement.
D'accord.
C'est imprévisible et c'est transitoire. Et c'est lié à ce qu'on appelle, un terme un peu barbare, une hyperexcitation neuronale. En gros, vous avez une tempête électrique dans votre cerveau qui vont perturber les messages, les synapses, qui vont déclencher des crises essentiellement motrices, c'est-à-dire des mouvements au niveau des membres de façon incontrôlée. Mmh. Les conséquences peuvent être dramatiques puisque lorsque ces crises surviennent chez l'enfant et qu'elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent entraîner un retard de développement. Chez l'adulte, c'est une source majeure d'accidents et de troubles socio-économiques. Des gens peuvent moins travailler et parfois, les traitements ont des effets secondaires assez lourds qui les empêchent d'avoir une vie un peu comme les autres.
D'accord. Mais par contre, je crois qu'il n'y a pas une épilepsie, mais vraiment des épilepsies. Ce n'est pas toujours la crise massive qu'on imagine et qu'on a vu parfois dans des séries à la télé.
Exactement. Ou... Ouais. Alors, celle qu'on connaît tous, c'est la crise tonico-clonique. La crise tonico-clonique, c'est une crise qui commence à être tonique, c'est-à-dire pendant 20 à 30 secondes, vous avez une phase où vous avez une contracture musculaire, une perte de contact, les révulsions au niveau des yeux, une hypersalivation. Mmh. Et puis, se suit la phase clonique où on a le mouvement des membres qui dure 20 à 30 secondes. À ce moment-là, il ne faut rien faire. On voit souvent des gens vouloir mettre la main dans la bouche pour que les gens évitent d'avaler leur langue.
On peut se couper les doigts, non, comme ça ?
Exactement. Ouais. Donc, on ne met pas les doigts dans la bouche d'une personne qui fait une crise d'épilepsie.
Mais on lui fait mordre quelque chose quand même ?
Alors, on la met en position latérale de sécurité pour éviter qu'elle inhale son liquide gastrique parce qu'elle perd ses réflexes du tronc cérébral. Et puis, ça, c'est la crise qu'on connaît classiquement. Cette crise, elle est tonique et clonique lorsque, dans le cerveau, on a une hyperexcitation qui survient de façon bilatérale, c'est-à-dire les deux hémisphères, symétriques et en même temps. Contrairement à d'autres crises qui sont dites partielles, c'est-à-dire que vous avez une petite zone du cerveau qui va être tout d'un coup excitée et donner un symptôme particulier.
Et là, ce n'est pas forcément la crise totale.
Exactement.
Quoi,
vous pouvez
exemple,
simplement avoir des absences. L'absence est un équivalent d'épilepsie, c'est-à-dire que tout d'un coup, la personne a le regard dans le vide, elle fixe et ne bouge pas.
Elle peut avoir
un mouvement automatique de bouche, des clonies au niveau des paupières, où ça peut se limiter à certains membres, comme un bras ou une jambe, qui a des mouvements involontaires.
D'accord. Alors donc, c'est impossible de lister ici toutes les causes qui peuvent entraîner de l'épilepsie. C'est une maladie complexe, on l'a dit, mais c'est quoi les principales raison, on va dire. On fera peut-être une émission sur l'épilepsie bientôt pour expliquer tout ça.
Effectivement, sans faire catalogue, on sait qu'il y a une composante génétique évidente. Elle est présente lors des deux tiers des épilepsies, c'est-à-dire que si vous avez des antécédents d'épilepsie dans la famille, vous avez plus de risques. Le fait d'avoir des lésions dans le cerveau, notamment des séquelles d'AVC, vous avez une petite gâchette qui tout d'un coup peut être hyper irritable et déclencher des crises d'épilepsie. Des maladies infectieuses, mais dans ces cas-là, c'est très bruyant et on s'en rend compte. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier de le dire, le sevrage à des médicaments ou à de l'alcool, si vous buvez énormément et que du jour au lendemain...
L'alcoolisme chronique, c'est un facteur de risque.
Voilà,
ouais.
Et si vous arrêtez de boire ou de prendre des traitements, notamment des somnifères ou des benzodiazépines, vous avez le sevrage et vous pouvez faire des crises d'épilepsie sur un simple sevrage.
Et très bien, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. On n'a pas le temps de parler des traitements, mais on fera une émission promise sur l'épilepsie bientôt. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. On comprend déjà un petit peu mieux cette maladie.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes ensemble avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à la question d'Alix. Alix, il ou elle a 20 ans. Par rapport aux autres garçons, donc c'est un garçon, par rapport aux autres garçons de mon âge, je ne parle pas de sexe et n'y pense pas vraiment. J'ai l'impression que ça ne me branche pas plus que ça. Suis-je normale ? Alors Catherine, un garçon de 20 ans qui pense jamais au sexe, ça peut sembler étrange, non ? Vous en pensez quoi ?
Oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on s'attend à ce qu'il soit particulièrement préoccupé, voire obsédé par la sexualité. Et,
à 20 ans, c'est presque l'âge où on est le plus préoccupé par ça, non ?
Voilà, mais je pense qu'à là, il y a des parents très heureux parce qu'il n'est pas préoccupé. Et donc,
un
il peut être totalement
disponible.
Rien à voir. Voilà, en tout cas, ça permet, quand on n'est pas trop préoccupé par la sexualité, d'être disponible pour les études, ce qui est toujours difficile pour nombre de jeunes hommes ou de jeunes filles. Mais en l'occurrence, oui, ça arrive que ça ne soit pas la préoccupation première pour plein de raisons. Alors ça, là, évidemment, nous ne voyons pas Alix, donc nous ne pouvons pas savoir d'un point de vue hormonal quel est son où il en est de son développement, parce que même s'il y a 20 ans, tout s'est bien développé, mais on n'a pas tous les mêmes vitesses, on n'a pas tous la même production de testostérone. Donc il y a aussi des choses qui peuvent être différentes à des rythmes différents chez les uns et les autres, laissons le temps au temps, sans qu'on y voit toujours de la pathologie.
Mais ça pourrait être dû à quoi, là, dans le cas d'Alix? À 20 ans, vous dites bon, peut-être pathologie, bon, ok, admettons, mais on ne sait pas du tout pour le cas d'Alix.
Il peut y avoir un retard de développement
hormonal. Voilà. Et si ce n'est pas ça, à 20 ans, on ne s'en préoccupe pas.
Ça peut être parce que d'abord, on peut être inhibé par rapport au sujet de la sexualité, pour plein de raisons, des histoires de relations avec...
Il ne dit pas qu'il est inhibé, il dit que ça ne le branche pas.
Oui, mais voilà, mais ça ne le branche
peut-être
pas parce que c'est inhibé, peut-être,
ouais.
Oui, ça peut être beurre, caca, pas intéressant, enfin, comme diraient les enfants, sauf que là, c'est plus comme ça que ça se dit chez un jeune homme de 20 ans, mais c'est trop compliqué, c'est moins maîtrisé. Parfois, c'est simplement que ça ne me branche pas parce que je ne sais pas très bien qu'en faire. Voilà,
ouais.
Tout ça a été assez refoulé. Et résultat, il y a d'autres choses plus intéressantes, d'autres choses plus investies, une sorte de sublimation de la sexualité mise sur d'autres choses.
Jimmy ?
Alors, donc là, on comprend qu'il n'est pas intéressé par des relations sexuelles avec un homme ou une femme, mais est-ce que ça veut dire pour autant que lui-même met de côté aussi la masturbation et que son propre corps ne l'intéresse même pas en tant qu'objet sexuel, en quelque sorte?
Ça peut être le cas. Alors là, il ne le dit pas, donc on ne peut pas présumer. Je ne suis pas Madame Irma. mais effectivement, dans certains cas, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a une scission pour certains entre pas, je ne suis pas intéressée par la sexualité, c'est-à-dire le rapport à l'autre, le corps de l'autre, et la mise en danger, ou en tout cas la mise en abîme de soi-même, mais tout à fait dans le plaisir de découvrir les plaisirs solitaires que sont la masturbation notamment, mais d'autres, pas du tout, parce que mon corps sexué n'existe pas, je suis encore un homme bâton, en quelque sorte, comme on le dessinait quand on était enfant, avec tout simplement un plaisir à découvrir le monde, à développer son intelligence, à développer ses capacités, à être, je ne sais pas, ingénieur,
grand sportif, je ne sais quoi. Hein.
En général, ceux qui sont sportifs sont quand même beaucoup dans le corps et donc beaucoup dans la sexualité. Mais ça peut être très dans un investissement très intellectuel ou très pratico-pratique sur des
la
créations,
musique,
etc. Une sorte de sublimation, encore une fois, de reporter le champ sexuel sur d'autres choses plus facilement maîtrisables ou plus facilement excitables.
Ça pourrait pas être aussi une façon de faire un peu son intéressant, entre guillemets, de se différencier, puisqu'il dit, il le dit dans sa question, les autres garçons ne pensent vraiment qu'au sexe. C'est pas juste pour dire, moi je suis un peu différente des autres, quoi.
Oui, ça peut poser aussi la question de la difficulté, peut-être par rapport aux autres garçons, de se retrouver de ce même groupe de garçons, peut-être avec une question de genre qui se pose, une sorte de petite inquiétude ou de flottement dans la perception de soi-même et du groupe dans lequel on se reconnaît. Ce qui est très difficile, c'est que ça peut être aussi un garçon, par exemple, avec un QI au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire un enfant qui, justement, a un cerveau qui a besoin d'être nourri, et au milieu des enfants de son âge ou des jeunes hommes, puisque là, on n'est plus déjà dans il a 20 ans, mais des jeunes hommes de son âge qui sont dans une aisance et une tranquillité
corporelle,
voire émotionnelle. Lui est un peu en difficulté sur le champ corporel et émotionnel parce que dans un surinvestissement, il préfère le monde de l'adulte et l'échange avec les adultes. Or, les adultes ne sont pas objets de désir pour lui. Du coup, ça décale complètement son accessibilité à la sexualité.
Une dernière question.
Peut-être que son désir se réveillera lorsqu'il tombera amoureux et rencontrera peut-être la bonne personne.
Oh, l'amour, Jimmy.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est sûr, effectivement, ça peut être par le biais, justement, non pas de ce sexuel pur, comme on a tendance aujourd'hui à vouloir l'entendre, dépossédé de tout sentiment, mais par la révélation d'une rencontre avec une adéquation intellectuelle, une adéquation de vue sur le monde qui fait tout d'un coup la suite logique, mais pour asseoir la relation et l'amour, plus qu'un intérêt de la sexualité pour la sexualité, quitte à ce que ça devienne après tout d'un coup une découverte.
Merci beaucoup Catherine pour toutes ces explications. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, je cède la place à l'équipé sauvage et à Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous. L'équipé sauvage arrive au grand complet avec un invité qui a tous les talents. Cinéaste, musicien, Mathias Malzieu, le leader du groupe Dionysos qui sort un nouvel album, est avec nous. Et comme il trouvait qu'un nouvel album, c'était pas beaucoup de boulot, il sort aussi un film, carrément.
Beau programme, merci Mathieu. Je vous souhaite une bonne émission. Restez sur Europe 1.